qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Alors, avant de lire ce passage biblique, je voudrais faire un retour sur notre groupe de maison et sur le livre des Actes, un très court retour. Cette année, nous avons poursuivi la réflexion qui était commencée ici sur le livre des Actes à l'aide d'un petit livre d'études que vous connaissez bien maintenant, un petit livre d'études de Tom Wright appelé sobrement Actes, dans la collection Les guides bibliques pour tous. Alors, dans ce groupe de maison, nous avons dit oui à cette invitation à nous laisser guider et enseigner par les Actes des apôtres. Et nous avons donc redécouvert ensemble cette bonne nouvelle qui s'est répandue à partir d'une feuille de route que nous connaissons bien. Cette feuille de route, elle se trouve dans Matthieu 28, au verset 18 à 20, où Jésus adresse ce message à ses disciples. « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre, aller chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors nous avons noté dans ce livre des Actes des apôtres, au fil des chapitres, le nombre de fois où il est écrit « Lève-toi ». Certains d'entre nous se sont posés pas mal de questions concernant leur choix, leur parcours, leur appel, et puis la difficulté à vivre et à répondre à ce « Lève-toi ». La difficulté aussi à entendre tout simplement ce « Lève-toi ». Et puis, la difficulté face aux épreuves qu'ils traversaient dans leur vie quotidienne. Ce texte des Actes nous a fait réfléchir, cheminer ensemble. Et d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à rejoindre bientôt un groupe de maison, parce que c'est vraiment des temps de partage qui sont très riches et très précieux. Alors, on a aussi remarqué une autre chose, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Chaque fois qu'un « lève-toi » était prononcé, il mettait aussi en mouvement celui à qui il était adressé ou celle à qui il était adressé. Et l'écoute précédait toujours la mise en mouvement, l'action et le témoignage de la bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle que nous allons partager aujourd'hui, elle va s'afficher dans la parole, dans la version « Parole de vie », et nous la lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 4. C'est la rencontre de Jésus avec une femme de Samarie. Donc nous lisons ce texte. Les pharisiens entendent dire « Jésus a plus de disciples que Jean et il baptise plus que Jean ». Mais en fait, Jésus ne baptise personne. Seuls ses disciples baptisent. Quand Jésus apprend ce qu'on raconte, il quitte la Judée et il retourne en Galilée. Pour cela, il doit traverser la Samarie. Il arrive près d'une ville de Samarie appelée Sichar. Elle est près du champ que Jacob a donné à son fils Joseph. À cet endroit, il y a le puits de Jacob. Jésus est fatigué par le voyage et il s'assoit au bord du puits. Il est à peu près midi. Une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » Ses disciples sont allés à la ville pour acheter à manger. La femme samaritaine dit à Jésus « Comment ? Toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une samaritaine ?» En effet, les juifs n'ont pas de contact avec les samaritains. Jésus lui répond « Tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit « Donne-moi à boire. » Sinon, c'est toi qui demanderais à boire et je te donnerai une eau pleine de vie. » La femme lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau et le puits est profond. Cette eau pleine de vie, où peux-tu la prendre ? Toi, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre ? C'est lui qui nous a donné ce puits. Et lui-même, avec ses fils et ses bêtes, il a bu l'eau de ce puits. » Jésus lui répond « Si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, alors je n'aurai plus soif et je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Jésus lui dit, « Va appeler ton mari et reviens ici. » La femme répond, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. En effet, tu as eu 5 maris. Et l'homme que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. » Alors la femme lui dit, « Seigneur, tu es un prophète, je le vois. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne et vous, les Juifs, vous dites, le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. » Jésus lui répond, « Crois-moi. Le moment arrive où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. En effet, le salut que Dieu donne vient des Juifs. Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors, ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint, et comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint, et comme le Fils l'a montré. » La femme dit à Jésus, « Je sais que le Messie va venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui répond, « Le Christ, c'est moi qui te parle. » Que ce texte fasse un petit peu son chemin, je vais faire un petit détour assez rapide maintenant par une expérience personnelle avant de reprendre ce texte. Je vous l'ai dit il y a quelque temps, dans un culte itinéraire de vie, je suis née dans une famille chrétienne et j'ai été au culte tous les dimanches jusqu'à mes 20 ans et j'ai eu la chance de recevoir un enseignement biblique dès mon plus jeune âge. Et puis, à l'adolescence, j'ai pu vivre, comme beaucoup d'entre nous, le réveil des années 70. À ce moment-là, les chrétiens mettaient en œuvre les actes des apôtres. Et puis, dans ma tête d'ado, ça me semblait aller de soi. Je me disais, c'est comme ça, la vie chrétienne. Le Saint-Esprit qui agit avec force, qui guide les personnes à prier pour que d'autres soient guéris, pour que d'autres soient sauvés. Mais voilà, à l'âge adulte, j'ai pris un petit peu pour acquis ce que j'avais vu se dérouler sous mes yeux. Alors je pensais, assez simplement, que je pouvais m'appuyer dessus une fois pour toutes et que ce socle de connaissances bibliques de ma jeunesse était en quelque sorte inébranlable. Vous voyez un petit peu sur le mode « tout est possible puisque je crois ». Et vous voyez un peu à quoi ça peut mener plus tard. Alors j'ai vécu cette jeunesse dans l'illusion que la foi en Dieu nous épargne de tout ce qui est trop difficile à vivre. Erreur. Et voilà comment, dans des moments importants, j'ai sauté, esquivé, raté une étape essentielle, celle d'écouter Dieu avant d'agir. Alors à ce moment-là, j'ai pris mes propres chemins, mes propres décisions. Évidemment, je pensais que Dieu allait les valider puisque je l'aimais, puisque je le servais, puisque je croyais en lui de toutes mes forces. Vous voyez comment les choses s'inversent un petit peu avec le temps. Et puis, assez vite, j'ai quand même ressenti une forme d'amertume parce que finalement, rien ne se passait comme je l'avais imaginé, bien entendu, même si j'y mettais beaucoup, beaucoup d'énergie. Je suis souvent passée de l'illusion à la désillusion, jusqu'à me poser des questions que vous posez peut-être parfois. Mais enfin, Seigneur, tu es où? Tu fais quoi? Et pourquoi es-tu toujours aussi silencieux? Alors, nous le savons bien, toutes les ressources finissent par s'épuiser un jour et tous les sols deviennent des déserts quand l'eau vient à manquer. Pour terminer ce détour personnel, je vais vous raconter une petite anecdote vécue avec ma plus jeune sœur, qui est atteinte d'une maladie rare qui s'appelle l'ostéogenèse imparfaite ou la maladie des os de verre, pour ceux qui connaissent, pour les spécialistes. Et cette maladie est très invalidante et a beaucoup impacté notamment sa croissance et sa vie tout entière, et puis la vie de la famille aussi. Et cette conversation qu'on a eue ensemble m'a fait beaucoup réfléchir. Un jour, en réponse à mes doutes, ce que je viens d'exprimer devant vous, à mes interrogations, elle m'a dit d'une voix très calme. Et quand ma sœur parle d'une voix calme, il faut bien, bien, bien écouter. Elle m'a dit, mais tu crois quoi? Tu crois vraiment que Dieu va te faire ta part à toi? Tu crois qu'il va faire ta part? Et là-dessus, elle assène quelque chose que je n'avais pas du tout vu venir. Dieu, ce n'est pas un Kinder Surprise. Alors là, avant que j'aie eu le temps de répondre, on a éclaté d'un fou rire évidemment incontrôlable. Ceux qui nous connaissent savent qu'on rit beaucoup ensemble. Et voilà, dès qu'on parle ensemble, on éclate de rire. Mais là, ce jour-là, c'est resté quand même gravé dans ma tête. Dieu, ce n'est pas un Kinder Surprise. Voilà. Plus sérieusement, c'était quoi faire ma part à moi? Puisque moi, j'avais déjà l'impression de la faire, donc je ne voyais pas vraiment où était le problème, mais finalement, il y en avait vraiment un. Voilà, je l'ai compris bien plus tard. Faire ma part, c'était écouter Dieu en premier, lui faire confiance et surtout le laisser agir, c'est-à-dire ne pas démarrer au quart de tour, par exemple. Alors, les Actes des Apôtres nous l'ont démontré clairement tout au long de cette année. Et voilà, je referme ici le détour personnel. Mais s'il vous est arrivé de penser un petit peu la même chose, s'il vous est arrivé d'agir très vite et de vous abîmer dans des montagnes de questions, de pourquoi, de comment, etc., avant d'écouter ce que Dieu a prévu d'avance, je suppose que le message d'aujourd'hui est pour nous, pour moi en tout cas, et pour vous peut-être. Et je vais vous parler donc d'une conversation qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans entre Jésus et une femme. Elle nous est racontée dans le texte que nous venons de lire, donc dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Très rapidement, j'ai mis une carte, oui, que je vois juste en face de moi. Donc la rencontre de Jésus avec la femme de Samarie, elle se situe à Sichar. Sichar, c'est à proximité d'une ville qui est appelée Sichem dans l'Ancien Testament, qui est aujourd'hui Naplouse, en Cisjordanie, au nord de Jérusalem, à 60 km à peu près au nord de Jérusalem. Ce lieu est cité plusieurs fois dans la Bible, et je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on le retrouve dans Genèse 12, on le retrouve en Genèse 33 et 34, et dans beaucoup de passages, et également aussi dans Josué, au chapitre 24, quand on voit que les ossements de Joseph sont transportés par les Hébreux, au moment de la sortie d'Égypte. Voilà, vous pourrez reprendre un petit peu ces passages si vous le souhaitez. Ils sont assez fondateurs. D'ailleurs, beaucoup de cet endroit est un endroit très important. Alors revenons donc à notre Sichar, près de Sichem, où Jésus, fatigué par la route, par la chaleur peut-être aussi par les fausses allégations qui le concernent, Jésus s'est assis au bord du puits. Le puits de Jacob à la sixième heure, en plein midi. Nous voyons très vite qu'il n'a pas choisi ce lieu par hasard, il a choisi le lieu où coule une source. Nous le savons bien aussi, l'eau est indispensable à toute vie sur Terre. L'eau est une ressource rare, précieuse, surtout dans cette contrée aride. Et puis le puits, c'est un lieu de rencontre, un lieu de transaction, de nouvelles qu'on échange, un lieu où se scellent les alliances et les conflits. Au même moment que Jésus, une femme arrive. Elle est seule, elle vient puiser de l'eau pour boire et certainement pour les besoins de la vie domestique. Et un dialogue s'instaure aussitôt, malgré des barrières sociales, culturelles et religieuses. Jésus a soif, il n'a rien pour boire ni pour puiser de l'eau. La demande ne semble pas du tout poser de problème à cette femme. Elle s'inquiète d'une chose qui est beaucoup plus préoccupante. Pourquoi un juif prétendument ennemie de son peuple, lui demande un service à elle, une femme de Samarie. Voilà ce qui préoccupe cette femme. Puisqu'elle l'a observé, elle l'a écouté, elle voit tout de suite qu'il est différent d'elle, qu'il est juif, alors peut-être à ses vêtements, peut-être à la langue qu'il parle, l'araméen, puisqu'il ne parle pas le même dialecte. Mais ce qui les divise, a priori, ce sont les questions religieuses, et c'est ça que cette femme pointe d'emblée. Les Juifs et les Samaritains ont un désaccord fondamental. Ce qu'elle croit, elle, en tant que femme samaritaine, c'est que le lieu où il faut adorer Dieu et où il aurait fallu instaurer le temple pour adorer Dieu n'est pas à Jérusalem, mais sur le mont Gerizim, selon les versions. Et ce mont est un lieu saint pour les Samaritains et il est très proche, tout proche, du puits de Jacob. Voilà, cette femme, elle plante un décor tout de suite. Nos différences sont si grandes, dans sa tête, hein, le texte ne dit pas ça, nos différences sont si grandes que je ne vois pas pourquoi tu oses me demander à boire, toi, un juif. On peut imaginer aussi qu'elle a déjà subi le mépris des juifs de cette époque, qui considéraient les Samaritains comme des métis, des étrangers. Les juifs considéraient même les Samaritains comme des hérétiques, et donc cette femme, elle est sur la défensive. La femme samaritaine dit à Jésus, comment, toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi, une samaritaine? Nous voyons ici à quel point la question de cette femme porte une tension importante et ancienne. Alors Jésus ne s'engage pas du tout sur la voie du conflit. Comme à son habitude, il lui répond simplement. Tu ne connais pas le don de Dieu, tu ne connais pas celui qui te dit « donne-moi à boire », sinon c'est toi qui demanderas à boire et je te donnerai une eau pleine de vie. Mais vous voyez, le problème c'est que cette femme c'est une dure à cuire. Et elle ne se laisse pas du tout convaincre, pas convaincre facilement, parce qu'elle en a vu d'autres. Dans sa tête, peut-être, elle se dit, très bien, on ne peut pas s'entendre sur Jérusalem, sur le lieu saint, mais elle, elle a des arguments. Et ces arguments à elle sont imparables. Ce sont des faits. L'homme ne pourra rien répondre, Jésus donc, qu'elle considère, elle, comme un homme juif. Il ne pourra rien répondre, mais quand même, on voit qu'un petit doute s'installe dans sa tête. Elle est intriguée, elle commence à changer de ton. Elle appelle Jésus Seigneur et elle lui pose des questions. Parce qu'après tout, il ne semble pas lui vouloir de mal, il ne semble pas vouloir l'humilier, comme elle l'a déjà été si souvent, bien au contraire. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à découvrir. Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau et le puits est profond. Cette eau pleine de vie, où peux-tu la prendre? Toi, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre? C'est lui qui nous a donné ce puits. Et lui-même, avec ses fils et ses bêtes, il a bu l'eau de ce puits. Jésus est concentré sur ce qu'il a à lui dire. Ce n'est pas encore le moment de dire qui il est. Il ne répond pas à propos de Jacob. Le sujet est ailleurs. Il est concentré sur cette femme et sa soif de réponse, car ils ont en commun d'avoir soif. Il la laisse cheminer tranquillement. Jésus lui répond, « Si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif, mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. » Imaginons encore cette femme en train de peser le pour, le contre. Le pour, il lui dit que sa soif sera étanchée, qu'elle sera une source de vie si elle accepte de l'écouter, de le croire au-delà de ses croyances, de tout ce qu'elle a toujours pris pour la vérité, de ce qui la rassure, la constitue dans son identité de femme samaritaine. Et puis imaginons encore cette femme pleine de bon sens réfléchir. Je ne veux plus avoir soif, je ne veux plus être seule à midi et me tuer à la tâche pour venir chercher de l'eau ici. Maintenant, moi aussi j'ai soif. Il va me donner à boire, je ne sais pas comment, mais je crois que ce qu'il dit est vrai. Et elle lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, alors je n'aurai plus soif et je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. Mais voilà, problème. La conversation prend une toute autre tournure au verset 16. Entre parenthèses, Jésus n'a toujours pas bu. Et la femme ne sait toujours pas ce qu'est cette eau vive, sinon qu'elle désaltère et qu'elle deviendra elle-même une source. Donc vous voyez, là, on est à un point, c'est un peu crispé. Et voilà que cet inconnu, qui décidément dit des choses bizarres, lui fait deux autres demandes. Après « donne-moi à boire », il lui dit « va appeler ton mari » et lui dit « reviens ici ». Voilà, retour en arrière. Il n'est plus question de source intarissable qui étanche la soif, il n'est plus question d'eau. Tout est fini parce que l'homme semble poser une condition pour lui donner cette eau vive, une condition à laquelle elle ne peut pas répondre. Lui donner de l'eau, ça, elle pouvait le faire, mais aller chercher son mari et revenir avec lui, ça, c'est tout simplement impossible. Quel dommage, une conversation qui avait si bien commencé et qui semblait pleine d'espoir. La conversation semble tourner en rond et puis tourner court, tout simplement. Mais la femme ne se dérobe pas. Et puis de toute façon, elle aussi, elle a quelque chose en tête. Prendre de l'eau au puits, retourner chez elle, à ses tâches quotidiennes. Alors, elle va au plus simple, au plus court. Elle ne s'embarrasse pas avec de longues explications. La réponse est directe et laconique. « Je n'ai pas de mari ». C'est à cet instant précis de vérité que Jésus lui donne l'eau vive dont elle a besoin. Il lui dit qu'elle a raison, qu'elle a été sincère, qu'elle a dit la vérité et qu'elle n'a pas renoncé au dialogue, aussi étrange soit-il. Tu as raison de dire « je n'ai pas de mari ». En effet, tu as eu 5 maris. Et l'homme que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari, tu as dit la vérité. Alors, tout s'éclaire pour cette femme. Même si elle a encore besoin d'être rassurée, celui qu'elle appelait sur la défensive un homme juif, puis Seigneur quand il lui parlait d'eau vive, elle l'appelle maintenant prophète, car il vient de lui parler d'elle, de sa condition de femme rejetée par la société de son époque, de sa souffrance, de son parcours heurté, sans espoir, sans joie. Alors évidemment, elle veut en savoir plus. Tant pis pour sa vie privée. C'est à elle de poser les questions. C'est à elle de poser des conditions. Je veux bien te croire, car tu connais ma vie alors que je ne te l'ai pas racontée, mais moi aussi, j'ai des questions. Alors la femme lui dit, « Seigneur, tu es un prophète, je le vois. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, et vous, les Juifs, vous dites, le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. » Et là, Jésus continue à lui donner les réponses qu'elle attend. Ne la juge pas. Ce qu'elle a fait de sa vie, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de lui donner l'eau vive qu'elle attend. Il lui dit que la véritable adoration ne dépendra plus d'un lieu géographique, mais d'un choix intérieur. Et qu'il lui est possible, à elle aussi, d'adorer Dieu, partout. L'eau vive, c'est ce que lui annonce Jésus, tranquillement assis sur la margelle d'un puits, en plein midi, en pleine chaleur. Écoutez bien, parce que c'est une révolution. Il lui dit, au verset 22, « Le salut que Dieu donne vient des Juifs, mais le moment arrive, et c'est maintenant où Dieu donne son esprit. Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint, et comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a montré. » Ça y est, cette femme a compris, ce voyageur fatigué pourrait être le Fils de Dieu, celui qu'elle attendait. Elle l'a compris d'ailleurs bien plus vite que ses contemporains et elle dit à Jésus, « Je sais que le Messie va venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Et Jésus lui répond de la façon la plus simple et la plus bouleversante qui soit, « Le Christ, c'est moi qui te parle. » Alors 2000 ans plus tard, ce message puissant, « Le Christ, c'est moi qui te parle », résonne encore. Pour nous, qui portons le nom du Christ comme une identité, nous sommes des chrétiens, une identité certaine, définitive, mais ce message résonne aussi pour tous les autres êtres humains. Ce message a été donné en réponse à la quête d'eau vive d'une femme étrangère quand elle a dit « Je sais que le Messie va venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Elle avait besoin, cette femme, de savoir pour comprendre. L'écho de cette conversation, c'est notre eau vive pour aujourd'hui. Le Christ, c'est moi qui te parle. Cette conversation, a priori incongrue, a une portée universelle et éternelle par l'annonce qui est faite, par le fait que Jésus lui-même l'annonce à une femme qui n'entrait pas du tout dans les cases de son époque. Parce que cette femme a accepté un dialogue avec un autre différent. Parce que cette conversation a donné à cette femme la force d'agir. La suite du texte biblique dit qu'elle a même laissé son récipient sur place. Vous voyez, il n'était plus question d'eau, plus question de soif. Et qu'elle est devenue à son tour messagère de la bonne nouvelle en annonçant à son peuple, c'est peut-être le Messie. Et que beaucoup de Samaritains à sa suite se sont mis à croire en Jésus jusqu'à lui demander de rester là 2 jours avec eux pour les enseigner. Ils sont même allés jusqu'à déclarer à cette femme « Maintenant, nous le savons, le sauveur du monde, c'est vraiment lui. » Alors cette eau pleine de vie, cela nous a été rappelé par André Allègre il y a quelque temps, c'est le Christ au centre de nos vies. Le chemin, la vérité, la vie, lui, le Messie envoyé de Dieu, qui est venu sur la terre pour nous sauver, pour porter le poids de nos vies humaines dans toute leur complexité, nos questions, nos doutes, nos maladies, nos fêlures, nos fractures, tout ce qui nous laisse sans vie, comme cette femme. Après sa résurrection, il nous a envoyé l'Esprit Saint, le souffle de vie, l'Esprit de Dieu, pour nous guider, nous consoler. Celui qui nous dit « Lève-toi », comme aux premiers apôtres. Alors, est-ce que nous entendons couler cette eau pleine de vie chaque jour ? Entendons-nous ce que Jésus dit à cette femme ? Les verbes qu'il utilise sont très simples. « Donne tes questions, tes blessures, ta vie, ce que tu as de plus précieux. Je te donnerai la vie. » Il lui dit aussi « Va », il lui dit aussi « Reviens ». Car cette source de vie ne tarit jamais et on peut y revenir autant que nécessaire, tous les jours, pour toujours. Donne, je te donne la vie, va, reviens. Donne, je te donne la vie, va, reviens. Est-ce que nous entendons le bruit de cette source qui circule en nous avec un mouvement perpétuel pour l'éternité ? Parce que l'eau, c'est le symbole de la vie, de tous les possibles, du salut, du pardon, de la vie éternelle. Écoutez et vous vivrez, dit le prophète Ésaïe. Écoutez qui signifie aussi entendre, obéir, apprendre, prêter l'oreille, tendre l'oreille. Alors Jacob, il a fourni de l'eau, du puits à ses enfants, mais Jésus donne à ses enfants l'eau vive, l'eau pleine de vie, qui jaillit jusque dans l'éternité. Il nous affirme dans Jean 5, au verset 24, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles et croit au Père qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Il n'est pas condamné, mais il est passé de la vie à la mort. » Voilà notre eau vive. De la mort à la vie, qu'est-ce que j'ai dit ? Pardon, mais il est passé de la mort à la vie, excusez-moi. Alors, merci. Alors, avant de conclure, imaginons maintenant un plan B, très rapidement. Imaginons que cette femme de Samarie ait agi sans écouter, sans dialoguer, sans poser de questions, sans chercher à savoir. Elle serait donc passée directement au plan B, c'est-à-dire agir avant d'écouter. Jésus lui aurait dit « Donne-moi à boire ». Elle aurait puisé de l'eau et elle lui aurait donné à boire par devoir, par hospitalité ou simplement pour qu'il la laisse tranquille. Et elle serait repartie avec sa cruche pleine d'eau du puits à sa vie quotidienne de femme marginalisée et infiniment seule. Elle ne serait jamais devenue la messagère de la plus grande nouvelle qui soit, la seule bonne nouvelle, Jésus le Messie, source d'eau vive donnée à tous. Non, Rien ne se serait passé de tel si cette femme n'avait pas regardé au-delà des apparences, au-delà des différences, au-delà de son statut, de ses habitudes, de ses croyances, de ses limites. Ben, qu'est-ce qui se serait passé ? En fait, rien du tout. Un gros rien du tout. Imaginez tout ce qu'elle aurait perdu, tout ce que nous aurions perdu, en plus du privilège immense d'entendre le Christ, c'est moi qui te parle. Alors, maintenant, imaginons tout ce que nous gagnerons si nous écoutons la voix du Seigneur, si nous dialoguons avec lui, si nous lui posons des questions, même celles qui fâchent, comme cette femme. Imaginons tout ce que nous gagnerons s'il nous répond, même de façon décalée et déroutante, comme à cette femme, mais toujours au plus près de nos vrais besoins. Voilà, c'est une invitation pour aujourd'hui. Écoutons et dialoguons avec celui qui se présente simplement avec un besoin. Il nous dit, c'est moi, le Christ, qui vous parle. J'ai soif de vous répondre et de vous donner une eau pleine de vie, tous les jours, pour toujours. Amen.
Pendant que je vais demander à l'équipe de louanges de s'avancer, je nous invite à rester encore quelques instants dans un temps de rumination intérieure de cette parole si riche qui nous a été partagée par notre sœur Marie. Que chacun puisse entendre une parole pour lui, une parole vivifiante pour aujourd'hui. Le Seigneur qui veut faire grandir en nous l'écoute, le dialogue, pour témoigner et agir, nous adresse une invitation renouvelée. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du pain et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment. Écoutez-moi vraiment. Et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Préparons-nous à partager le pain et le vin de la communion, à entendre l'invitation qui nous est adressée ici par le prophète Ésaïe, comme nous tournant vers celui qui s'est révélé au monde comme le pain de vie, qui nourrit à satiété celles et ceux qui reconnaissent leur faim. Comme l'eau vive dont Marie vient de nous parler, qui étanche nos soifs, irrigue les lieux déserts de nos existences. Préparons-nous à recevoir tout à nouveau ici de manière actualisée les signes de l'alliance nouvelle, scellée par sa vie donnée et son sang versé pour le pardon de nos péchés. L'apôtre Paul, dépeignant le Christ dans sa prééminence et invitant les Colossiens à contempler l'image du Fils de Dieu et à avoir devant leurs yeux l'œuvre du Christ, écrit dans le premier chapitre de sa lettre aux Colossiens. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et nous qui étions autrefois étrangers et ennemis de Dieu par nos pensées et par nos œuvres mauvaises, il nous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour nous faire paraître devant lui, saints, sans défaut et sans reproche. Mais il nous faut rester fondés et inébranlables dans la foi sans nous détourner de l'espérance de l'Évangile que nous avons entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont l'apôtre Paul est devenu pour nous aussi le serviteur. Homme de douleur, j'invite les personnes qui ont été proposées ce matin pour nous servir, servir ce repas, à s'avancer.